C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au XXIe siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... Toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Habemus papes. Salut, c'est Charles Cécile. Dans cette nouvelle enquête de C'est pas pour dire, il est question du pape ou, pour être précis, de la pape. Et oui, et si le pape avait été une femme? Avec notre invité du jour, nous allons évoquer ce sujet fascinant. Lors du festival Héroïne de sept lieux, nous avons rencontré la conteuse Anne Engie, qui est venue nous raconter l'histoire légendaire de Jeanne, la papesse. On raconte qu'au IXe siècle, Jeanne aurait accédé à la papauté en se faisant passer pour un homme. Anne Engie, comédienne et conteuse tout-terrain, possède un vaste répertoire de spectacles pour tous les âges et pour toutes les oreilles. D'une conteuse à l'autre, c'est Anne-Gaëlle Goduchaud, directrice artistique du festival Héroïne de sept lieux, qui prend le micro et nous invite à la rencontre d'Anne Engie.
I still have a dream.
Je crois que dans tous les spectacles, il faut une rupture.
C'est ça. Hein?
Comment on
ça.
Amène ces ruptures qui font que là, on rebondit sur autre chose et puis on revient. Et puis oui, je crois qu'il y a des choses un peu cruelles de temps en temps, des choses plus drôles, des choses... Voilà, un peu d'irrévérence qui nous font du bien.
Ah, ouais.
Oui, tous ces ingrédients qui nous racontent la vie, tout simplement. Hein. Alors qu'elle soit du 9e ou d'aujourd'hui, voilà, on en a besoin, je crois.
Engie,
oui.
C'est comme ça que ça se dit?
Parfois, ça peut se dire Engie.
Engie.
Ouais, ouais.
Ça vient d'où ce nom?
Ben, je suis alsacienne.
Ah, c'est ça. C'est,
eh oui,
ça.
Donc
c'est l'Alsace.
Oui. Ouais.
T'es une fille de l'Est?
Je suis une fille de l'Est et puis... Oui.
Qui est allée dans le Sud.
Qui est allée en Ardèche.
Et qui, là, ces jours-ci, était plutôt à l'Ouest.
Voilà. Ça, je le suis de temps en temps.
De temps en temps.
Oui, oui.
Alors, t'es conteuse?
Oui, je raconte des histoires.
Tu racontes des histoires.
Ouais.
C'est un drôle de métier, ça.
Un drôle de métier, oui. Je ne sais pas si on est toujours légitime ou voilà. Mais je crois que c'est ce que je sais faire ou que j'essaye
ouais.
de faire.
Ouais. Ouais. Toujours fait ce métier-là?
Alors, j'ai toujours raconté des histoires.
C'est vrai?
Oui, oui.
Ça alors?
Oui. Alors, j'ai commencé par le théâtre quand j'avais 14 ans.
Comment ça, quand tu avais 14 ans?
J'ai commencé par le théâtre, j'ai profité de cette décentralisation avec Jeunesse et Sport.
Ah, il t'a fait les...
En ce temps-là, se souciait de la culture, on va dire.
Et
ça.
T'as fait quoi, les fameux A3
non.
théâtre?
Alors non, alors moi je viens d'un petit village perdu, et puis à quelques kilomètres, il y avait une troupe de théâtre. Il y avait en ce temps-là, toujours d'ailleurs en Alsace, beaucoup de troupes amateurs.
Ah oui.
Et donc Jeunesse et Sport a délégué un metteur en scène pour travailler avec nous. Donc
super.
J'ai découvert le théâtre, j'ai fait du théâtre très longtemps, ben jusqu'à il y a 10 ans à peu près.
D'accord.
Et puis, ça fait 30 ans que je fais les deux.
Quel genre? de théâtre.
De théâtre,
ouais.
Alors là, c'était avec la troupe de théâtre. Je suis quelqu'un de très fidèle. Je suis pas souvent allée voir ailleurs ce qui se passe. Je restais avec eux parce que je pense que ça me convenait. Donc il y avait vraiment de tout.
C'est du texte, parce qu'il y a plein de genres.
Oui,
théâtre.
Oui. C'était très varié. Alors après, c'était en Alsace, donc c'était un théâtre peut-être un peu à l'image du théâtre de Busson.
Ouais.
On jouait dans une grange et puis du Molière, on jouait. C'était des soirées de poésie, c'était très varié en fait.
Mais t'as imaginé assez rapidement que ça allait être ton métier ?
Alors, rapidement, oui. Je crois que je ne vivais que pour ça.
Ah.
Ouais. Ouais. À l'âge où tout le monde sortait et puis moi je n'attendais qu'une chose.
C'était le théâtre.
C'était le théâtre,
ah,
oui. Hein, oui. Oui. Et ensuite, quand j'avais 20-22 ans, j'ai rencontré un groupe de conteuses. Et donc, j'ai fait un premier stage,
ouais.
Voilà.
Mmh. Mais et ça t'a plu ?
Oui. Mmh. Et donc, j'ai toujours fait les deux, théâtre et conte.
Mmh. Mmh.
Mmh. Et là, ça fait 10 ans que le conte me convient tout à fait, que je ne fais plus de théâtre, sauf de temps en temps des petites mises en scène pour un groupe d'amateurs qui fait des collectages de récits de vie.
C'est pas pour dire, sous la fraîcheur des arbres, lors du festival Héroïne de sept lieux, Anne Gaëlle, en compagnie de Anne Engie.
Qu'est-ce que c'est qui t'a plu dans le conte ?
Alors dans le conte, c'est ce genre qui n'est jamais figé, voilà. Et puis le rapport au public, c'est de...
C'est un rapport particulier,
en fait,
tu dirais, au public, par rapport à ce que tu connaissais avec
oui,
le théâtre ?
Oui, tout à fait, oui. Et puis, je suis de plus en plus persuadée qu'on se met tout simplement au service d'une histoire, en fait. Mmh. On a cette histoire, on se met à son service et puis on la raconte.
Mmh.
Et puis, voilà, c'est des choses très simples. Hein. Et de partager cet univers et puis de rêver un peu et puis de se laisser aller dans l'imaginaire, oui.
Tu disais, je t'ai entendu dire l'autre jour... Je suis un peu comme ces immigrés quand je suis avec les conteurs, ils me détestent parce qu'ils trouvent que je fais du théâtre. Et quand je suis avec les théâtreux, ils disent que franchement, il y en a marre du conte.
Oui, un peu, oui. On cherche sa place,
ça,
hein, on est empli de doutes.
Ouais.
Et puis, on ne sait pas trop. Et puis, peut-être que moi, très longtemps, je n'ai pas vraiment compris ce qu'on voulait de moi, en fait. Oui. Et puis, quand j'étais qu'avec des conteurs, j'aime beaucoup les autres disciplines aussi.
Ouais,
hein.
Ouais.
Donc, voilà. Je sais que la BDP de Colmar nous payait des stages, des formations à ce moment-là. Et puis donc, quand ils nous parlaient de « on va faire une formation de clown », j'étais partant.
Ouais.
Quoi. Et puis je voyais parfois la réticence des copains, des copines, et je ne comprenais pas. Après, j'ai grandi avec la musique de mon frère, avec le théâtre, et puis j'adorais raconter des histoires.
Et toi-même musicienne un peu ou pas ?
Un peu une musicienne, pas très... Non, j'ai essayé des instruments, oui, oui, mais bon... Ça mérite un peu plus de travail que ce que j'ai fourni.
On ne peut pas être bon partout.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est les histoires que tu aimes bien ? Qu'est-ce qui t'a, quand tu as plongé dans le conte, qu'est-ce que tu as eu envie de raconter ?
Alors, c'est très étrange. Très longtemps, j'ai dû me apprivoiser les contes merveilleux. C'est arrivé plus tard, en fait.
Ah oui.
Oui. Et c'est très difficile. Je trouve que c'est un exercice très difficile. Je me suis réconciliée avec les contes merveilleux. Maintenant, c'est vrai que j'ai un panel très large.
Comment tu dirais ça? Qu'est-ce que c'est cette difficulté du conte merveilleux, justement?
En quoi
c'est difficile?
Je crois que ça le reste toujours, en fait.
Ouais, ouais.
C'est drôle, hein, j'ai pas vraiment... Et pourtant, j'adore le conte merveilleux. Ouais. Mais c'est au début, je racontais plutôt des contes de sagesse, les pourquoi, les randonnées.
Ouais.
Et puis ça m'amusait beaucoup. J'aime beaucoup m'amuser aussi. Donc je ne peux pas dire par là que le conte merveilleux ne m'amuse pas.
On peut s'amuser
aussi.
Mais
c'est j'ai trouvé que c'est quelque chose de difficile. Alors qu'aujourd'hui, je m'en amuse.
Ouais.
Je me souviens, en venant de l'Est, combien de fois on m'a demandé est-ce que vous pourriez venir raconter la légende de Saint-Nicolas.
Ah oui?
Et là, ouais, je disais, bah non, bah jamais, quoi. On découpe les enfants, on en fait des rondelles,
ah bah ouais.
on les... Ouais. Et puis aujourd'hui, bah ça m'amuse, et puis...
Et
je m'amuse. Et
les enfants qui
s'en allaient glaner au champ, tant sont venus, tant sont allés. Ouais.
Ah oui.
Et donc, et puis maintenant, ça m'amuse à fond, quoi, de faire peur, et puis de... C'est pas ça, c'est de trouver cette connivence entre l'enfant qui écoute Saint-Nicolas pour qu'il n'en ait pas peur et qu'il jouisse un peu. On jouit un peu. Hein, Mais non, aujourd'hui tout va bien.
Ouais.
Je m'amuse avec le merveilleux, mais c'était pas. Alors aujourd'hui, ouais, ce que j'aime beaucoup, c'est les légendes aussi.
Ouais.
J'adore quand on ne connaît plus le vrai du faux. Courait d'un revers de main, essuie ses larmes, et soudain elle entend des voix. Alors elle quitte le chemin. C'est plus sûr, hein? Elle aurait pu faire une mauvaise rencontre. Elle a le blond de Marie-Madeleine, les cheveux ébouriffés, emmêlés comme ceux de Médée. Elle est belle, Jeanne. Père, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Il n'est pas un bonheur de la vie que je n'ai goûté. J'ai aimé deux maris, trois amants, et j'ai eu sept enfants. Et j'attends le jugement dernier, coincé dans ce merveilleux marbre froid sur lequel on a gravé l'éloge de mes vertus en lettres d'or.
Gardeuse d'oie tu seras, petite.
Et sa mère lui dit, gardeuse d'oie tu seras, Judith.
A-t-elle pleuré? Ou alors savait-elle déjà qu'elle était sur terre pour satisfaire les désirs d'un bourreau? Au nom de l'Heptarque, Egbert, que l'occupant nous suive sans délai. Et il vend sur la mer du Nord, sur les eaux turbulentes, et ils partent pour un long voyage vers la Germanie. Et lui, là, qu'est-ce qu'il a fait? Allez, c'est un voleur, un violeur, un brigand. On pourra peut-être le sauver. Trois paternoster.
Et les indociles de la forêt de l'Erlking se sont armés d'un couteau, ont sacrifié ces deux petits garçons pour éviter toute descendance. Ensuite, du même couteau, ils l'ont amputé de tout désir de paternité. Elle s'allonge entre les deux cercueils. Mais la carriole brimballe, un tape-cul.
In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Et ils répondent tous... Amen.
Un sachet de myrrhe qui repose entre mes seins. Et là, il était juste à côté.
Veuillez accorder un peu moins d'importance à vos génuflexions et donner plus aux pauvres. Elle enfonçait des aiguilles et elle disait « Faites en sorte que le pape passe de vie à trépas. »
Jeanne est enceinte. La déesse Eos s'est levée. Elle a étiré ses doigts roses. La déesse Eos, c'est la déesse de l'aurore.
Miracle! Le pape vient d'accoucher!
J'irai là où on ne m'attend pas. Des courts extraits de l'histoire de Jeanne, papesse. Celle qui se joua du danger, tint tête aux détracteurs les plus obstinés, puis qui accéda au trône pontifical. C'est pas pour dire, avec la conteuse Anne Engie.
Tu venais dans ce festival là, des héroïnes pour raconter...
La papesse Jeanne.
La papesse Jeanne.
Et oui. Oui.
Alors voilà, c'est censé se situer aux alentours du...
9e siècle.
9e siècle.
Oui.
Et donc,
la papesse Jeanne, alors c'est vrai que jusqu'au 15e, les gens y croyaient. Mm-hmm. Qu'une femme, un jour, s'est emparée de ce trône pontifical. Ouais. Et puis qu'elle les a tous bernés, quoi. Voilà.
Ouais.
Et donc, elle a influencé énormément de femmes.
Ah oui.
Et donc, ensuite, les historiens ont longtemps, pendant des siècles, ont débattu. Donc, c'est vrai que pour ça, elle a été utilisée entre catholiques et protestants à des moments très différents. Elle a été colportée, cette histoire, par parfois des moines défroqués ou des excommuniés. Ou... Et en fait, on s'en fout qu'elle ait existé ou pas. Parce qu'elle a influencé beaucoup de femmes.
Là,
par le savoir, par... Et donc, quand une femme était... C'est la papesse dans le tarot divinatoire.
Ah oui.
Donc, en ce temps-là, le jeu de tarot, on le fabriquait. Mmh. Et quand une femme était puissante dans une maison, la papesse dans le tarot prenait les traits de
l'hôtesse, cette
de cette femme-là.
Ah.
Et elle a vraiment influencé beaucoup de femmes. Et jusqu'au 15e, les gens étaient persuadés qu'une femme était pape pendant 2 ans. Donc, les historiens en ont débattu, et puis en fait, on s'en fout qu'elle ait existé ou pas.
Dans ce que tu racontes, c'est une femme très intelligente,
oui.
Très érudite,
oui.
Très libre aussi.
Très libre aussi, hein? Oui.
Elle s'arrange et elle fabrique sa, oui. son...
Elle s'arrange
elle fait
avec...
Elle sa tambouille avec...
Oui.
Avec
oui, c'est ce que je dis, un peu comme si Dieu était une femme, quoi, en plus léger.
C'est ça.
Religion en plus léger,
en
oui.
Plus léger.
Oui,
ouais.
Oui. Ouais. Et puis, oui, elle fascine, elle a fasciné les historiens. Et donc, elle est présente, elle est quand même présente dans la mémoire collective. Quand on raconte qu'on vérifie si le pape est couillu ou pas,
c'est... Ça, ta formule en latin, c'est quoi?
C'est abetus testiculos et bene pendentes.
Il a des testicules bien pendantes et bien pendantes.
Oui.
Et ensuite, on dit abemus papam.
Oui, voilà. Et donc, tout ça, c'est dans la mémoire collective. Et je suis sûre qu'aujourd'hui encore, les gens sont persuadés qu'on vérifie... les couilles du pape,
oui, j'étais sûre de ça.
Bah oui, pas forcément.
Qu'on asseyait le futur pape sur une chaise trouée et qu'un évêque était...
Alors après, ce qui reste mystérieux, c'est que ces chaises existent, ces chaises percées.
Ouais,
donc
même.
Apparemment, il y en a une qui est au musée du Vatican. Ouais. La deuxième, c'est Napoléon qui l'a embarquée jusqu'à Paris. Mmh. Et donc ces chaises existent bel et bien.
Ouais.
Dans longtemps, pareil, on se demandait à quoi elle pouvait servir au Vatican. D'abord au latran, avant de...
Le latran, alors tu en parles dans ton récit, c'est quoi?
Oui. Alors le latran, c'était le premier lieu avant qu'il y ait le Vatican. Il y avait ce latran, la maison du pape.
La maison du pape.
Oui.
À Rome.
À Rome, oui. Oui. Cette nuit-là, ils avaient trouvé un abri de fortune. Au petit matin, quand Jeanne s'est réveillée, son père était étendu. Il la regardait et il souriait. « Père, pourquoi est-ce que tu ne dis rien ?» Il n'a pas dit un mot. Et lentement, dans son sourire, il s'est éteint. Alors elle s'est mise à genoux et elle a prié comme il le lui avait appris. Et puis elle a pleuré, ni trop, ni trop peu. Elle s'est dit que seuls les vivants causaient des peines durables, mais pas les morts. Et elle l'a enterré au pied d'un saule. Sur le tronc, elle a gravé ces quelques mots. « À mon père, moine, l'an 832. » Et elle est partie. Elle a couru. Elle a dévoré le chemin jusqu'à la rivière.
« Anne Engie avec un extrait de l'histoire de Jeanne, papesse. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas pour dire.
Rencontrer cette histoire, toi ?
Alors, cette histoire, c'est par ce genre de formule où moi aussi, sans doute, un jour, j'ai dû lire qu'on vérifiait si le pape était couillu. Et donc, la formule me faisait rire. Et puis ensuite, j'ai fouillé un peu dans l'art. On voit qu'il y a des tableaux de la papesse Jeanne, des tableaux qui existent, Cologne, des enluminures. Et puis donc, on se dit, bah oui, elle existe.
Et le tarot, tu disais ?
Et le tarot aussi. La figue, il y a une figue, alors je ne sais plus exactement, une figue qui s'appelle la couille du pape.
Ah oui.
Et puis tout ça viendrait de là, quoi, de Jeanne. Et donc ensuite, oui, c'est des choses qu'on lit ça et là, on ne pense pas en faire une histoire.
Et puis à un moment,
je me suis dit, tiens, Roïdis, qui est un grec, a écrit cette histoire au 19e. Il y a eu énormément de romans autour de la papesse Jeanne. Mm-hmm. Donc moi, je suis partie de la papesse Jeanne de Roïdis. Elle m'arrangeait parce qu'il en a fait une vraie héroïne. Oui. D'autres romans nous racontent une fille qui, par hasard, rencontre un jeune moine très érudit, va le suivre. Ouais. Et moi, j'avais envie d'une vraie héroïne.
Ouais.
Donc je suis partie de ce roman. Après, j'ai lu, je crois que c'est Boulot, un anthropologue de l'EHESS à Paris, qui lui a écrit un gros pavé, j'étais un peu déçue, où il démontait l'histoire point par point. Ensuite, évidemment, j'ai plongé dans le Moyen-Âge, j'ai relu plein de choses, et puis donc, après, on construit son histoire.
Ce moment où tu t'es dit, il y a tellement de matériaux, comment je vais faire pour raconter ça? Il y a trop.
Après, on se retrouve avec 3-4 heures de choses à raconter. Ouais. Et ensuite, on le met en bouche. Et puis ensuite, on procède au sacrifice, à ce qu'on veut sacrifier pour avoir un spectacle qui tienne la route pendant 1h15. Après, oui, il y a eu. Oui, les historiens se sont beaucoup penchés sur papesse Jeanne. Oui. Ouais.
Et dis-moi, alors, jamais tu as eu de problème avec des intégristes cathos qui auraient été vraiment horrifiés de. Parce que,
jamais. Non. Oui. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure, il y a une dame qui m'a dit qu'elle était très pratiquante.
Ouais.
Et puis qu'elle était enchantée.
Oui.
Donc, oui, on a envie. Après, on prévient un peu. Hein. Oui, c'est irrévérencieux. Il y a la cruauté du Moyen-Âge.
Ouais.
Et puis, en fait, moi, elle m'a intéressée parce qu'elle nous raconte les mots MAUX d'aujourd'hui aussi. Mmh. Les hommes qui rentrent de guerre violent toujours les femmes. Aujourd'hui encore, le pouvoir, c'est quelque chose. Alors, ce que j'aime beaucoup, alors je l'amène comme ça aussi. Je n'ai pas l'impression qu'elle veuille absolument ce pouvoir, mais sans doute elle veut aller là où on ne l'attend pas en fait, et puis être libre. Donc
tu dis ça. Quelque chose de la liberté, puis
de la liberté.
Elle cherche aussi à pouvoir
à
manger.
Sauver sa peau et à sauver sa peau,
oui,
parce que il y a la cruauté. Donc je tenais à raconter l'histoire de sa mère aussi, parce qu'elle serait née d'un viol. Donc et puis de.
On a des enfants qui nous passent devant en
qui
courant.
Court, oui. Voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est dans ce sens-là aussi où je dis, on se met au service d'une histoire. Moi, je me mets au service de cette histoire.
Parfois, dans les histoires, une longue distance se fait en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, et Athènes s'impatiente. Ils arrivent par le mont Hymet qui domine la ville, et Jeanne l'aperçoit au loin dans toute sa splendeur, et le soleil flamboie dans un ciel sans nuages. Alors, elle étend ses bras, tel le balancier d'un funambule,
Et elle court, déballe la pente. Elle court, elle rit, et les pierres roulent sous ses pieds. Athènes, la belle Athènes m'attend, et sa voix roule d'écho en écho, comme si elle voulait annoncer à chaque arbre, chaque plante, chaque fleur qu'elle était là. Frumentius peine à la suivre, il retient son âne pour qu'il ne trébuche pas. À mi-pente, elle s'arrête, et elle se laisse tomber dans un tapis de sauge et de menthe. Quand Frumentius la rejoint enfin, elle lui dit « Oh, Frumentius, je ne t'en ai jamais parlé. Mon père était moine, il était d'origine grecque. Il avait fui il y a tellement longtemps. Et en ce temps-là, empereurs et impératrices se sont succédés, des iconoclastes, l'un plus cruel que l'autre. Ils ont tué, massacré, moines fidèles qui refusaient de cracher sur les saintes icônes ou de les piétiner sur la place publique. Quand j'étais plus grande, ils me racontaient de drôles d'histoires, de dieux, de déesses, et ces histoires, je les prenais pour des contes de fées. Mais il m'a dit aussi que le christianisme avait étouffé le paganisme et que l'innocente victime avait laissé tout un héritage à son meurtrier. »
Jeanne à Athènes. Un extrait de l'histoire de Jeanne Papesse. Jeanne ira de Mayence à Athènes, puis à Rome, où l'attend la couronne papale, emblème du monde et du ciel. C'est pas pour dire, Anne-Gaëlle Gauduchot, interview Anne Engie.
Qu'est-ce qui fait qu'au XXIe siècle, alors qu'on a tant de moyens techniques, de réalité virtuelle, de films, de ça, que... Il continue à y avoir des gens qui entreprennent de raconter des histoires avec juste leur corps et leur voix, et qu'il continue à y avoir des gens qui viennent les écouter. À quoi ça tient, à ton avis ?
Alors, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec toutes ces images qu'on a autour de nous, je crois qu'on a besoin de cette simplicité.
Ah, c'est la simplicité.
Ah oui, je crois, ouais. Oui. De aucun artifice, on est là avec son corps, parce qu'on est pas que là avec
chez
la voix, on est là de la tête aux pieds. Mmh. Et puis, oui, je répète, on se met au service d'une histoire. Alors, cette réponse, je l'ai eue pendant le Covid. Mmh. Au sortir du Covid, on avait prévu quelques spectacles à Privas en Ardèche.
Là où tu habites ?
Oui, oui. Et à ce moment-là, on avait prévu, en général, on arrive, on fait les beaux, là, on vient avec notre spectacle, et puis on donne, et puis on rentre chez nous. Sauf que là, les regroupements entre les différentes classes n'étaient pas autorisés. Et donc, avec les deux, trois copains...
Tu parles de classe de d'école ?
D'école, ah, oui. Oui. Et donc, on avait étalé ces rencontres pendant, je crois, 2 mois. J'allais dans une école, j'avais tout le monde, de la maternelle au CM2. Mm-hmm.
Et donc, j'y allais classe par classe. Mmh. Et en commençant ce projet, donc, on avait décidé de le faire dans la forêt parce qu'en ce moment-là, les gens ne sortaient pas. Mmh. Pas souvent, ils étaient là, tous confinés avec le masque. Mmh. Et donc, j'ai commencé par les écoles maternelles, et je classe par classe. Et je me suis dit, je vais prendre une histoire commune pour toute l'école. Il y avait à peu près 12 classes, donc j'y suis allée 12 fois. Mmh. Et ce qui était assez étrange, c'est que quand je suis arrivée au CM2, quand je commençais l'histoire que j'avais décidée pour tout le monde, cette fameuse histoire, une randonnée, chaque fois quelqu'un me disait, un ou deux enfants me disaient, mon petit frère et ma petite sœur me l'ont raconté. Hmm. Et j'ai trouvé ça incroyable, ah, c'est bon. Parce qu'on ne s'est pas posé la question, que deviennent toutes ces histoires quand on les donne à un public et puis on rentre chez soi. Hmm. Et là, pendant cette période, mais elles vivent quoi. Hmm. Elles rentrent, les enfants emmènent les histoires, les racontent aux parents. Ouais, et j'ai trouvé ça incroyable. Mmh. Donc pourquoi est-ce qu'on... Ben oui, on raconte des histoires pour ça. Pour avoir ce moment où on se met à l'écart, où le monde est ce qu'il est, et puis on plonge ensemble dans l'imaginaire, où, voilà, où le...
T'as l'impression que c'est une chose importante, l'imaginaire ?
Ah ben oui, forcément. Forcément, ce moment où on ouvre les portes. Souvent, je ne sais pas si c'est Henri Gougaud qui avait écrit ça en exergue dans un de ses livres, l'histoire, on n'en dit ni trop ni trop peu, juste ce qu'il faut, et puis chacun prend ce qu'il veut. Et puis oui, est là, trop ni trop peu, qui permet à celui qui écoute d'ouvrir cet imaginaire, d'en faire quelque chose.
Vendredi, ils s'arrêtent devant une taverne, ils ont tellement faim. Ils poussent la porte et entrent. La taverne est toute sombre, toute basse, mais dans l'âtre, un feu dense s'étire, crépite en avalant goulûment le gras d'une noix toute dodue qui tourne sur la broche et qui ouvre l'appétit des bons pères. Ils s'installent sans autre façon, les dents prêtes à dévorer. On les serre. Mais soudain, le père Raguibald se lève et dit « À vendredi !» Et le père Rallègre pousse son écuelle en marmonnant « Au vendredi !» Jeanne n'en revient pas. Et Raguibald lui dit « Nous sommes gloutons impurs et ivrognes tout à la fois, mais nous ne sommes pas tombés assez bas pour manger de la viande un jour maigre. » Aussitôt, elle leur dit « Je sais. » On va baptiser Loi et on va lui donner un nom de poisson. D'ailleurs, la chair du poisson et de Loi n'est pas sans rapport puisqu'ils ont été créés le même jour. L'argument n'est pas dépourvu de failles, mais semble les convaincre puisque le père Raleigh se lève, il prend une bolée d'eau, il asperge Loi et dit « In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti » et ils répondent tous « Amen. » Et en trois coups de fourchette, trois mouvements, il ne reste plus rien du poisson tout frais baptisé que les os.
La folle histoire de la papesse Jeanne, un récit au cœur du Moyen-Âge. Anne Engie nous raconte cette histoire entre mythe et légende. Thank you. C'est pas pour dire, nous sommes au festival Héroïne de 7 lieux, tout se passe bien et nous sommes avec Anne Engie, Carpe Diem.
Tu racontes des histoires depuis combien de temps ?
Ce qui est très drôle par rapport à cette question, c'est que je crois que j'ai toujours aimé raconter des histoires. Ouais. Avec mon frère aussi, on se racontait des histoires. Et en fait, quand j'ai commencé à faire des balades contées, il arrivait de temps en temps que des vieilles copines ou copains du lycée venaient, ou du collège. Et puis, une ou deux fois, on m'a dit, tu te souviens comme tu racontais des histoires et comme tu adorais nous faire peur ? Et j'en avais pas conscience, en fait.
Ah, oui.
Et c'est vrai que quand j'avais...
Ah, c'est les fameuses histoires de colo où tu racontes
pour faire peur. Pour faire peur, oui. Et quand j'étais 17, 18 ans, on est toutes monitrices. Et les derniers jours, on faisait toujours un spectacle. Et je sais que c'était toujours le conte. Et en fac à Strasbourg, je me suis inscrite à l'atelier théâtre de la fac. Et puis là, on passait une audition. Puis j'avais 20 ans, 19 ans, et puis j'arrive, et tout le monde avait préparé un super monologue, tout. Et moi j'arrive, et je venais d'entendre, je crois, Henri Gougaud à la radio, et je débarque, je gicle mon monologue, et je leur raconte l'histoire que je venais d'entendre à la radio, et je me souviens du regard, je pense qu'ils m'ont pris pour une folle, quoi.
Ah oui ?
Oui, oui.
Il y a des gens qui t'ont... T'as appris avec des gens
J'ai fait des stages, oui, comme tout le monde, des stages de formation. Et puis ensuite, quand j'ai déménagé...
C'est une vraie question, parce que la question, c'est aussi, est-ce que ça s'apprend ?
Est-ce que ça s'apprend ? On écoute beaucoup les autres et puis on suit son instinct, je crois, aussi. J'ai mis sans doute beaucoup plus de temps que les autres parce que je me posais trop de questions entre... Oui, j'étais un peu là où entre le théâtre, le conte. C'est difficile de savoir ce qu'on nous demande, de comprendre le processus du conte.
À quel endroit
Pour moi, ça a été très difficile où je ne m'affirmais peut-être pas, où je faisais d'instinct. Après, si, j'ai eu des maîtres du conte. Mais moi, même en musique ou n'importe, j'ai jamais... idolâtrer des gens ou voilà, mais j'ai travaillé avec Michel Hindenock que j'ai beaucoup aimé, avec Gigi Bigot que j'ai rencontré hier dans ton festival, avec qui j'avais fait un atelier sur le collectage de récits de vie. Et puis c'est des choses qui m'ont nourri, mais d'autres aussi, avec le théâtre des migrateurs à Montélimar, on avait co-écrit une pièce, fait la mise en scène, c'était autour des contes aussi. Je crois que la musique, le théâtre, la peinture, tout le monde me nourrit en fait. Et c'est vraiment au fil des rencontres, on apprend en faisant d'autres disciplines en fait. Il y a 4-5 ans, pendant un an, j'ai suivi des cours de mime par curiosité. Donc parfois, j'ai essayé aujourd'hui de montrer le cercueil. En le mimant. Le bateau, oui. Donc oui, on se nourrit. Il faut absolument qu'on se nourrisse les autres.
Oui, d'ailleurs.
Qu'on aille au théâtre, que le spectacle doit rester vivant, et puis qu'on aille au théâtre. Et puis,
Oui, ça fait partie des métiers. Tu peux pas dire, je fais une formation de 4 ans, et puis ça y est, c'est tout.
Non, c'est un processus un peu lent.
C'est un processus un peu lent.
Oui.
Vous savez comment commencent les histoires ? Il était une fois. Il était une fois trois bêtes. On les appelait les bêtes Malibêtes. Il y avait la toute petite bête Malibête avec deux toutes petites cornes sur sa tête. Il y avait la moyenne bête Malibête avec une moyenne corne sur la tête. Et il y avait la grande et grosse bête Malibête avec deux grandes et grosses cornes sur sa tête. Elles habitaient tout en bas dans la vallée. Et vous savez, pour faire une vallée, il faut deux montagnes. Et quand la toute petite bête Malibête est arrivée, ça faisait tip-tap, tip-tap, tip-tap. Et sur le pont, ça faisait tip-tap, tip-tap, tip-tap. Et le troll est arrivé, il a dit « Qui ose marcher sur mon pont ?» Je vais te manger. Et la toute petite bête, Malibête, elle est partie. et ça faisait tip-tap, 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 tip-tap. Et pendant ce temps, qui est-ce qui est arrivé sur le pont? Vous le savez? La moyenne bête malibête qui, quand elle marche, ça fait toc, 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 toc. Et sur le pont, ça a fait toc, 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 toc. Et le troll est arrivé, il a dit, oh, oh, qui ose marcher sur mon pont? Je vais te manger. Et la moyenne bête malibête est partie et ça faisait toc, 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 toc. Et pendant ce temps, qui est-ce qui est arrivé sur le pont? La grande et grosse bête malibête qui, quand elle marche, ça fait comment? Boum, 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 boum. Et sur le pont, ça fait boum, boum. Et le troll est sorti, il a dit, ah ah, qui ose marcher sur mon pont?
C'est moi.
La grande et grosse bête malibette avec deux grandes et grosses cornes sur la tête. Et le troll a dit, je vais te manger. Et la grande et grosse bête malibette a dit, essaye. Et la grande et grosse bête malibette a montré ses deux grandes grosses cornes sur sa tête. Elle a foncé, elle a giclé, elle a catapulté le troll qui est parti loin, en tournicotant dans le ciel. Et le troll a passé par-dessus la lune. Et le troll a fait le tour du soleil. Et le troll est retombé en tournicotant dans la mer. Et quand le troll est tombé dans la mer, vous savez ce que ça a fait?
Non.
Ça fait plouf.
Anne Engie, qui a dans sa valise un répertoire s'adressant aussi bien aux adultes qu'aux petits, c'était un extrait du spectacle Le Moulin Extraordinaire. Nous sommes à l'écoute de C'est pas pour dire.
Là qui mijote chez toi
Ah, alors ah. En ce moment, j'ai oui, ça fait un long moment d'ailleurs. Moi, c'est très long parfois, hein, entre la rencontre avec les contes et puis de le mettre en bouche et d'y aller. Alors, c'est vrai que en ce moment, je travaille beaucoup de choses en fait. Oui, en ce moment, je m'intéresse un peu aux croque-mitaines.
Ah,
okay. Voilà, donc j'essaye de collecter des choses.
On est toujours sur des légendes, en fait.
Oui, oui, oui.
Ah,
et
le
puis,
croque-mitaine.
Oui, et ensuite, en ce moment, je m'intéresse aux ogres. Alors, le croque-mitaine, c'était, ça aussi, c'est un peu par hasard. Hein, c'est que j'avais invité Nicole Belmont, qui ne pouvait pas venir.
Tu peux nous dire, là, juste vite fait, on met une petite parenthèse pour les gens qui ne connaissent pas cette femme incroyable, Nicole Belmont.
Nicole Belmont, qui travaille à l'EHESS à Paris, qui a beaucoup écrit sur les contes, vous la trouverez dans les éditions Corti, c'est une très belle édition. Ouais. Franchement, si vous vous intéressez aux contes, allez dans les éditions de Corti.
Ah, oui.
Là, il y a de quoi nous nourrir, en fait. Et donc, elle devait venir à Privas, elle n'a pas pu venir parce qu'elle est un peu âgée aussi, et puis c'était... un voyage un peu compliqué à ce moment-là. Et donc, on avait tout ce public. Et moi, Nicole Belmont avait travaillé sur les croque-mitaines. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que le premier exemple qu'elle a donné, c'était mon croque-mitaine de mon enfance.
On t'a raconté le croque-mitaine quand t'étais petite ?
Alors oui, alors le croque-mitaine. Oui, oui. En même temps, c'est ces personnages qui servaient aussi à nous protéger.
Ah, tu dis ça ?
Oui, oui, les croque-mitaines. Oui, alors, le nôtre spécifiquement, c'était on l'appelle Trocamon.
Croque-mitaine
d'Alsace, oui. Alors, longtemps, j'étais persuadée qu'il n'habitait que chez moi, mon croque-mitaine. J'ai un peu déçu en voyant qu'en Suisse, ils avaient le même.
Alors, tu dis comment il s'appelle ?
Hokamon.
Alors, c'est
Hoka
quoi, c'est...
pour crochet, Eman, l'homme au crochet, en fait. Ah. Et donc,
caractéristique, c'est quoi, alors ?
Alors, quand j'étais enfant, nous, en l'école maternelle, on y allait seul. Personne n'avait le temps de nous accompagner. On avait 4 ans. Il fallait passer à côté du lavoir. Mmh. Et donc, les grands-parents, les parents nous disaient... Ne t'approche pas du lavoir parce qu'il y a le croque-mitaine.
Ah, c'est pour ça que tu dis que ça servait à protéger.
Oui, oui. Mmh. Et en fait, je me souviens très bien, on ne nous a pas du tout expliqué comment il était. Mais là, l'imaginaire, c'était rapide. Fond, ouais. Quand on voyait cette eau qui surgissait de dessous la route avec les algues, forcément, ses cheveux, c'était des algues. Mmh. On voyait le soleil qui se reflétait parfois, c'était forcément les yeux. Mmh. Et donc, on ne s'approchait pas. Et donc, l'année d'après, on ne faisait plus le détour, mais on passait juste à côté. Mmh. Et l'année d'après, il y avait 3 marches qui nous séparaient là, de la route au lavoir. On prenait ses marches et on descendait et puis on regardait. Et en fait, le jour où on a osé s'approcher, c'était quand on était suffisamment grand pour ne pas se noyer, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Donc, j'étais très surprise que d'autres avaient le même croque-mitaine que moi, quoi.
Et donc, tu as commencé à identifier des croque-mitaines différents dans les régions.
Oui, tout à fait.
C'est spécifiquement européen.
Alors, je n'ai pas vraiment fouillé, non. Mais je pense qu'il existe partout. Ouais. On appelle ce croque-mitaine un peu ce personnage qui nous fait peur. Ouais. Des grandes frousses aussi. Ouais. C'est,
mais il y a un rapport. Depuis tout à l'heure, c'est une chose que tu évoques à plusieurs reprises, cette histoire de se faire peur, d'avoir peur.
Ah oui,
peur,
c'est vrai.
Le plaisir que tu peux prendre à frissonner.
Ah bah oui, tout à fait. Ouais. Alors les peurs, il vaut mieux qu'elles viennent de l'extérieur que de sa propre peur dans son corps. C'est ce qui nous sauve aussi. Thank you.
globalement dans une époque où on essaye que les choses soient bien lisses. Il y a toutes ces précautions sur est-ce qu'on ne va pas choquer, est-ce qu'on ne va pas... Alors, donc, ça va dans toutes les directions. Mais celle-là, de est-ce qu'on ne va pas traumatiser les enfants en leur parlant d'ogre, ou bien est-ce qu'il ne faudrait pas limer les dents du loup, ou bien en faire un loup gentil, ou bien... Ça sert à quelque chose, tu dirais? C'est quoi l'intérêt de cette chose, de ces histoires qui font peur?
Oui, de ces histoires
qui font
peur.
Si on n'est pas sadique, je veux dire, parce qu'il peut y avoir aussi des conteurs sadiques.
Là, oui, ça n'a rien à voir avec ça.
Mais en admettant que ça ne soit pas ça, qu'on n'a pas envie de faire peur pour faire peur, et parce qu'on... Voilà. Tu dirais... Tu étais en train de dire quelque chose qui me semblait intéressant, là.
Mais je crois que les enfants s'inventent des peurs, on a tous. On s'est tous fait peur quand on était enfant. Moi, je me souviens qu'on devait avoir 7-8 ans, on aimait se promener dans les cimetières, on espérait voir des feux follets, on était meurs de trouille. On allait dans les grottes, et puis c'est indispensable qu'on ait des peurs de temps en temps. Et puis, comment est-ce qu'on les surmonte? Comment est-ce qu'on... On en vient à bout. Comment on veut affronter la vie quand on n'a jamais eu peur, quand on n'a jamais été contrarié, quand c'est ce qui nous aide à grandir? Il faut qu'on arrête de se dire... Les enfants, oui, il faut qu'ils soient contrariés de temps en temps.
Bien sûr, un peu de frustration ne nuit pas, un peu de limite, c'est sûr.
Tout à fait. Et puis,
t'as raison. La peur, quand tu passes à travers, quand tu passes de l'autre côté, t'es quand même tellement content.
Fait partie du chemin initiatique, tout simplement.
Ouais. Et c'est vrai que quand on écoute une histoire, un conteur, une conteuse nous raconte une histoire, ça veut dire déjà qu'on n'est pas seul, parce que même si... Il n'y avait pas beaucoup de public, on est au moins deux, disons. Ce qui veut dire que si j'ai eu peur, je peux même en parler. Enfin, on partage ça. Et donc, c'est très différent que de regarder un film sur une tablette où on peut avoir peur, mais d'être vraiment, vraiment seul avec des images qui nous sont imposées. Ouais. Et c'est intéressant. Dans la manière dont t'en parles, il y a... Comme l'idée de... Comme un vaccin, non?
Ah bah oui, tout à fait.
Tu as une petite dose de peur pour te donner des outils pour affronter les épreuves de la vie. On ne va pas inventer que la vie n'a pas d'épreuves. Elle n'est pas toujours marrante.
Tout
le monde le sait.
Comment on fait?
Et donc, comment on fait?
Oui. Ouais. Et ça, c'est inévitable, les peurs. On parle aux enfants. Moi, j'ai des petites filles. Elles sont mortes de trouille quand elles voient une araignée. Donc, on les a pas encouragées à avoir peur des araignées. Mais les peurs, on se les invente, quoi. Et puis, un jour, elles auront peut-être un peu moins peur des araignées. Ce qui m'arrangerait, ça évite de passer l'aspirateur avant qu'elles arrivent. Non, pas passer l'aspirateur, je les sors, j'ouvre la fenêtre et délicatement.
Tu les mets pas dans le...
Jamais.
Ah bah non.
Non. Et en fait, quoi qu'on fasse, les enfants s'inventent des peurs, quoi qu'on fasse. Donc autant s'amuser de cette peur, leur montrer. Évidemment,
il ne s'agit pas. S'amuser ensemble de la peur,
c'est vachement bien. S'amuser de la peur, c'est chouette, quoi. Il ne s'agit absolument pas de.
Dans le jeu, d'ailleurs, on joue au loup, c'est pas pour rien.
Ah bah oui.
J'ai des souvenirs de jouer à cache-cache, d'être caché et d'avoir autant envie qu'on me trouve que de peur qu'on me trouve, parce que d'un coup... Ouais.
Et là, on ne parle pas des peurs que quand on était enfant, quoi. Du père Fouettard ou des... C'était terrifiant. C'était terrifiant. Il faut trouver quelque chose qui convienne à tout le monde. Où l'enfant s'amuse de sa peur, où nous on s'amuse aussi, et puis il ne s'agit pas non plus de les traumatiser, pas du tout.
Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que si tu regardes l'ensemble des contes de tradition orale, les enfants sont abandonnés, sont trahis, mangés, mutilés. Et il y a toutes ces peurs d'un petit enfant d'être laissé dans une forêt sont passées en revue, et c'est vrai que ça permet de traverser.
Oui, et puis de les affronter aussi. Hein. Ouais. De toute façon, ils seront confrontés. On parle en ce moment de harcèlement, on parle de beaucoup de choses. Donc forcément, les enfants, on est confrontés à ce genre de choses.
C'est vrai qu'on...
On prend un œil, deux yeux, trois yeux ou n'importe quel compte. C'est voilà comment une enfant, enfant harcelée...
Toujours les plus petites, de toute façon, dans les contes qui finissent par trouver leur chemin et par devenir roi et reine de leur propre...
De leur propre vie.
De leur propre vie. De leur
et
propre
ça, ma foi, on ne pourra pas éviter ça. Ouais. Il y a ces confrontations, il y a ce cheminement, et je crois que le conte peut y aider. Quoi. Voilà.
Merci Anne.
Merci.
On s'arrête.
On s'arrête, merci Allez. Pour l'héroïne des 7 lieux. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood?
I have a dream. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. C'est la fin de cette émission et c'est comme cela que nous allons nous quitter. Il y a dans notre siècle des femmes rabbins, des femmes pasteurs. Est-ce que dans un monde qui change à toute vitesse, on assistera un jour à l'élection d'une papesse? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est pas pour bientôt. Heureusement, on a des conteuses qui racontent Urbi et Orbi. Un grand merci à Anne-NJ. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes ses petites sœurs sur notre site www.c'estpaspourdire.fr et nous envoyer vos commentaires ou suggestions sur la page Facebook de l'émission. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. Per aspera ad astra. Ciao!
I still have a dream.